Ce que je vais essayer de faire, c'est d'examiner comment l'intrication de la situation politique de l'Irlande avec celle de la Grande-Bretagne a été au cœur de la construction d'une cinématographie spécifique entre les deux pays. Une cinématographie qui a pour thématique le conflit entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et dans cette période qui va des années 70 au début des années 90, je voudrais essayer de montrer à travers des exemples les enjeux qui sont au cœur de cette construction, puisque à la fois on observe comment le conflit historique et politique est source d'inspiration, besoin d'expression, et également sujet de controverses, de conflits, pour de nombreux films qui sont réalisés soit par des Britanniques, soit par des Irlandais, mais souvent avec le soutien des Britanniques. Donc il y a une sorte de conflit dans le conflit, et c'est ça que j'ai envie d'observer aujourd'hui. Alors, l'application de la théorie postcoloniale, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est une chose qui est assez controversée, puisque la confrontation des cultures que permet cette théorie en regard d'un héritage colonial n'est pas appliquée habituellement aux pays européens, et que Bill Ashcroft, notamment, dit que l'Irlande ne répond pas aux critères de nation postcoloniale, je cite, parce que complice culturellement de l'impérialisme britannique. Ma question est donc de comprendre en fait ce qui s'est joué durant ces années dans le domaine du cinéma, ce qui a donné lieu à des collaborations, à des dynamiques de création, comme à des échecs, et de voir comment ce conflit anglo-irlandais parfois rejaillit de manière très forte et inattendue dans la production et dans la réception des films. Donc je vais vraiment vous parler de manière anecdotique des films, de leur production, de leur réception, dans des cas particuliers qui, j'espère, vont faire sens pour vous quand ils seront regroupés. Donc, moi, je pars de l'hypothèse inverse, de celle de Bill Ashcroft, et j'essaye d'établir des analogies entre cette situation politique globale et puis ce qui a pu passer pour des antagonismes personnels, des conflits de personnes. Alors, petit rappel, l'indépendance de l'Irlande date de décembre 1921. Elle est suivie jusqu'en 1923 par une guerre civile. Le traité anglo-irlandais concerne 26 comtés et 6 comtés du Nord composent l'Ulster sous domination britannique. Le statut des 6 comtés du Nord fait l'objet de contestations de la part des nationalistes irlandais et les tensions culminent au début des années 70 avec un réveil de l'IRA face à une répression britannique de plus en plus violente. Bloody Sunday à Derry en 1972, une série d'attentats, des grèves sur lesquelles je vais revenir, et ce jusqu'à l'amorce d'une solution fournie par l'accord anglo-irlandais signé par Margaret Thatcher et Garret Sturgeon en 1985, et le début des négociations pour la paix en février 1993, d'où cette date, et qui aboutiront à l'accord du Vendredi Saint en 1998, mais donc je n'irai pas jusqu'à cet accord. Alors la société qui a émergé de l'indépendance puis de la guerre civile en Irlande se caractérise par sa ruralité agraire, ses objectifs d'autosuffisance, son catholicisme. Donc par contraste, absolument, et je vais déjà avoir besoin de ton mot de passe, par contraste avec la société britannique, industrielle, marchande, protestante. En Irlande, ce sont aussi des décennies de très forte censure, d'absence de liberté de création, d'absence de moyens financiers alloués à la création et les grands créateurs qu'on peut citer en pensant aux écrivains Joyce, Beckett vont tous parler énormément d'Irlande mais en vivant à l'extérieur de l'Irlande, en ne pouvant pas être dans cette société étouffée qui dure jusqu'à la fin des années 50 avec la démission de Eamon de Valera en 1959. Donc il succède Sean Le Mas jusqu'en 1966, qui progressivement va abandonner cette politique protectionniste, cette politique d'autosuffisance au profit du libre-échange et d'appels à des investissements étrangers. Et parmi ces capitaux étrangers, les tournages de films constituent un apport extrêmement intéressant. Alors, premier film dont je vais vous parler, c'est Ryan's Daughter, qui donc la fille de Ryan, tournée en Irlande entre 68 et 70, réalisée par le cinéaste britannique David Lean, et qui a donc le privilège d'être un des films majeurs de l'histoire du cinéma, en même temps que l'un des films les plus méprisés par les intellectuels irlandais. Et donc, je vous mets là une réponse de Bob Quinn à ma question. Est-ce que tu te souviens de la sortie de Ryan's Daughter en 70? Est-ce que tu pourrais m'en parler? Et sa réponse a été claire. Vous voyez, je ne pourrais pas dire mieux. If you mention The Quiet Man or Ryan's Daughter one more time, I shall vomit. Donc, c'est un rejet absolument total encore aujourd'hui. Hein. Et en effet, Ryan's Daughter a tout d'un malentendu entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Pour rappel, Robert Ball, qui est donc le scénariste de Laurence d'Arabie, de Docteur Jivago, écrit un scénario adapté librement de Madame Bovary, qu'il propose à David Lean, qu'il accepte après avoir demandé quelques modifications à son scénariste, dont le choix de l'Irlande comme lieu de l'action, en raison, dit-il, de ses paysages dramatiques. Et ce qu'il va confirmer dans ses écrits plus tard, parce que l'histoire dépeint les aspects les plus sauvages, les plus sombres de notre nature, en lien particulièrement avec l'infidélité, je voudrais la situer dans un lieu non spécifique. Il se trouve que c'est l'Irlande, mais je pense que ça aurait pu se passer n'importe où. On est en prise avec les émotions premières. Nous n'avons pas besoin de beaucoup creuser pour trouver l'animal qui est en nous. Nous prétendons que ça n'existe pas, mais c'est faux. Alors, il y a quand même une certaine provocation pour un Britannique, ou alors il s'agit vraiment d'ignorance, à parler d'un lieu non spécifique à propos de l'Irlande dans les années 70, en pleine période de troubles, et en plus à situer la sauvagerie de la nature humaine, donc toujours en Irlande, en 1916, puisque l'histoire que raconte Ryan's Daughter se situe en 1916, donc c'est précisément la date où les Britanniques écrasent les indépendantistes lors du soulèvement de Pâques. Donc il y a quand même quelque chose là d'extrêmement gênant dans le choix de David Lean, et puis d'autant plus que le conflit avec le colonisateur, donc est pleinement intégré à la diégèse de Ryan's Daughter. Donc je vous fais pas, je pense que tout le monde connaît très très bien ce film ici, donc j'ai pas besoin de le résumer. Mais on sait que la mise en scène est ancrée. Ah, pardon, je vais un peu trop vite. Donc la mise en scène est ancrée dans un décor dans la lignée de ces épopées grandioses, avec un village construit hein, de toutes pièces, donc qu'il appelle Kirari en correspondance avec le Kerry, dans lequel, le comté dans lequel il va tourner, qui se trouve dans la péninsule de Dingle. Alors, le film sort en 1970, tournage très difficile qui dure plus de 2 ans, alors que c'était 36 semaines de prévu, un budget qui explose, contexte très envenimé donc, du conflit nord-irlandais, et réception critique internationale extrêmement négative. On parle d'une déception épique. Même si le public ne le boude pas, puisque, y compris en Irlande, le film va rester à l'affiche pendant presque une année dans un des meilleurs cinémas de Dublin. Donc c'est ce dont j'aurais aimé que me parle Bob Quinn, mais je n'ai pas réussi à obtenir d'informations. Alors, chez les chercheurs en cinéma irlandais, la critique est unanimement négative. Je vous en cite quelques-unes. Kenneth Catman, le film nourrit l'idéologie coloniale en reproduisant indéfiniment les mêmes stéréotypes sur l'Irlande. Ruth Barton écrit « On n'apprend rien de l'histoire irlandaise par cette fiction », tandis que Freddie Young, donc le chef-op, est acclamé quand même pour la beauté des paysages filmés. Luke Gibbons, lui, dénonce une utilisation des paysages irlandais qui produisent une vision pastorale de l'Irlande. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir très, très souvent. Donc, il s'appuie sur la distinction établie par Panofsky entre primitivisme dur et primitivisme doux. Et il affirme que dans La fille de Ryan, eh bien, c'est un primitivisme dur qui est un moyen de renforcer le romantisme en le rendant plus authentique par un réalisme visuel. Donc, qui rendrait les situations romantiques plus crédibles. Donc, il parle de réalisme visuel exagéré. Et là, il dénonce le fait qu'il a fait construire un village entier, qu'il y a eu des photos prises de ce village qui deviennent des cartes postales qui représentent l'Irlande. Et donc, en fait, on leur vole leur image. Ça, c'est quelque chose qui va être reproché aussi à Flaherty. En fait, on retrouve toujours ces mêmes choses d'un vol de l'image authentique. Et on comprend bien le lien avec cette posture postcoloniale qui est extrêmement difficile à accepter. Donc, il repère aussi dans le film un certain nombre de critères de ce primitivisme dur, à savoir que les personnages ne travaillent pas, bon, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce qu'on a quand même l'instituteur, on a le tenancier du bar, on a les militaires. Et Rosie, donc, est un personnage primitif parce qu'elle n'a pas de distance avec la nature, parce que quand Charles presse l'instituteur presse des fleurs qui séchées dans un livre, eh bien, elle dit qu'elle préfère les voir pousser dans la nature. Voilà, ça s'est repris comme un critère de primitivisme dur. Et surtout, il affirme que la nature dépeinte est hostile et sauvage à l'image de ses habitants. Et donc, cette scène d'amour dont j'ai pris quelques photogrammes, eh bien, est lugubre, sombre. Et je vous laisse juger du lugubre de l'affaire dans ce bois avec les petites jacinthes sauvages. Et puis une petite nature un peu complice quand même. Donc, la critique intellectuelle porte moins directement sur le traitement du conflit anglo-irlandais, alors qu'il y aurait vraiment de quoi dans La Fitzgerald, mais que sur une représentation de l'Irlande qui serait rurale, arriérée, et avec des paysages pastoraux. Et donc, c'est ce dont sont toujours accusés les cinéastes étrangers qui viennent filmer en Irlande, et je dirais presque voler les images de l'Irlande. Et ce qui correspond pourtant à cette image que De Valera a choisi de construire à l'issue de l'indépendance. Donc, expérience quand même extrêmement douloureuse pour David Lean. Hein, vous savez qu'il mettra 14 ans avant de refaire un film. Et c'est quand même très étonnant qu'il n'ait pas perçu le brûlot politique du sujet. Mais par contre, ce qui est indéniable, c'est que ce tournage, eh bien, a été une aubaine financière pour l'Irlande, que la péninsule de Dingle s'est transformée en succursale d'Hollywood pendant 2 ans. Et les ouvriers qui ont bâti le village ont été extrêmement bien payés, les enfants dans l'école, les pubs, les commerces ont vraiment bénéficié des frasques des acteurs comme Robert Mitchum qui dépensait des fortunes, qui a laissé, il paraît, on a retrouvé une Porsche dans un garage après son départ, qu'il avait négligemment laissé, abandonné. Donc la péninsule, il faut voir quand même que c'est dans un contexte d'une Irlande très très pauvre et qu'on a un enrichissement de la péninsule qui va durer grâce à ce tournage. Hein. Cet argent n'est pas venu pour rien. Mais même si ce film rapporte de l'argent, ce qui fait que c'est vraiment l'objet de critiques très amères, c'est bien évidemment parce que le cinéaste est britannique et qu'à contrario, les cinéastes irlandais, eux, n'ont pas les moyens de faire leur propre film. La télévision irlandaise, qui est inaugurée le 31 décembre 61, est l'unique moyen pour eux de construire une culture audiovisuelle commune. Et donc, comme le rappelle Bob Quinn, la télévision des années 50 et 60 a bouleversé le monde du cinéma partout. En Irlande, c'était ça, l'industrie cinématographique. Et il est très, très en colère quand on n'en parle pas des films qui sont des films des audiovisuels, enfin, télévisés, pardon, parce que, évidemment, ce sont les films qu'eux ont pu réaliser dans cette période-là. Donc, il dit que, y compris les grands comme Ken Loach, Boorman, eh bien, ont commencé par faire de la télévision. Alors, au début des années 70, Bob Quinn est le leader des cinéastes de la première vague, ceux qui souhaitent en finir avec les dominations étrangères et créer donc leurs propres images. Ils se réclament d'une certaine avant-garde. Ils créent l'association des producteurs indépendants. Ils sont une dizaine à travailler en groupe, à collaborer aux films des uns et des autres. Du documentaire, il passe à la fiction. je ne vous prononcerai pas le titre en gaélique de ce long métrage, qui retrace la vie d'un paysan de Macroom qui, ayant refusé de céder son cheval pour une somme modique à un propriétaire anglais, comme le préconisaient les lois pénales de l'époque, est exécuté. Donc, film qui est à la fois en anglais et en gaélique, où il reproduit vraiment ce conflit par la forme donc très intéressante. Au début, autre cinéaste indépendant de cette période, Joe Comerford, qui réalise Down the Corner en 1977, qui est un film dans lequel il dépeint la jeunesse ouvrière dublinoise dans un style qui est tout à fait inspiré de la nouvelle vague. Donc, c'est vraiment le 400 coups irlandais. Et Joe Comerford, qui est sans doute le réalisateur avec le style le plus affirmé de cette période, va ensuite acheter un scénario sur les gens du voyage à un très jeune auteur irlandais à l'époque, qui est peu connu, qui s'appelle Neil Jordan. Et il réalise ce film, Travelers, à partir du scénario de Neil Jordan en 1981, toujours avec peu de moyens, avec l'aide de l'AIP, et en mêlant les histoires vraies de gens du voyage à celles du scénario original. Au même moment, en 1981, le réalisateur britannique de renommée internationale John Boorman tourne Excalibur en Irlande pour un budget de 12 millions de dollars. Boorman donc vit en Irlande et il est président des studios Ardmore. Donc, ce sont les seuls studios qui existent en Irlande. Ils ont été nationalisés en 1957. Et le président est le cinéaste britannique Boorman, ce qui ne manque pas d'énerver passablement les cinéastes irlandais. Et Boorman, lui, est entré dans le métier grâce à la confiance d'un producteur qui lui avait offert l'opportunité de réaliser Catch Us If You Can. Il est très sensible aux jeunes talents irlandais autour de lui et il constate à quel point ces jeunes talents ne demandent qu'à s'exprimer. Alors, pour le tournage d'Excalibur, il va engager des acteurs de théâtre qui sont totalement inconnus, Gabriel Byrne, Liam Neeson, Kieran Hines, dont on peut imaginer dans cette période le caractère exceptionnel de faire leur début quand même dans un film produit par la MGM et dont on sait les carrières phénoménales qu'ils ont fait par la suite. Donc, et ça n'est pas rien que Boorman ait fait cette confiance à des acteurs qui n'étaient absolument pas confirmés en tant qu'acteurs de cinéma puisque c'était leurs premières expériences. Et c'est dans le même esprit que Boorman propose à l'écrivain Neil Jordan de faire le making-of de Excalibur. Jordan n'a absolument aucune expérience dans le domaine. Peter Sheridan, qui est également romancier, qui est aussi le frère de Jim Sheridan, qui a réalisé quelques films, se souvient des frustrations face au manque d'opportunités de cette période. Neil, Jim et moi, quelques autres, nous sommes regroupés pour fonder The Irish Authors Cooperative. C'était un groupe de gens qui voulaient publier des nouveaux romans irlandais. C'était impossible de trouver des nouvelles publications en Irlande, alors qu'il y avait cette énergie. Une des premières choses dans lesquelles Jim, Neil et moi nous sommes investis était la pièce de théâtre Oedipus Rex en 1970. On faisait des choses qui étaient culturellement et politiquement en phase avec la période, mais on n'arrivait pas à vivre en tant qu'acteur. Alors, créer la coopérative des auteurs, c'était pareil. Neil écrivait des nouvelles, d'autres des romans, mais c'était impossible de les faire publier. Alors, on s'est associés pour les publier. Parallèlement, les cinéastes de la première vague militent, eux, en faveur de la création d'un institut du film qui serait une instance de promotion de la création cinématographique irlandaise qui serait détachée des financements des studios Ardmore et des intérêts financiers du studio. Et donc, en 1976, Bob Quinn et Joe Comerford se rendent au Canada pour réaliser encore un documentaire télévisuel qui va s'appeler The Film Board for Ireland, dans lequel ils filment l'instance équivalente canadienne de Film Board of Canada en expliquant que c'est ce dont ils ont besoin en Irlande. Leur combat est enfin récompensé en 1980. Le Irish Film Board résultat d'une longue lutte, voit le jour. Le comité doit officiellement compter 7 membres, mais il est précisé qu'il peut fonctionner à partir de 3 membres. Et à leur grande surprise, aucun membre de l'AIP ne va être invité ou sollicité. Le comité est composé de Louis Ehlen, qui est PDG d'une banque, de John Boorman, cinéaste britannique, et de Robin O'Sullivan, qui est le directeur du Festival du film de Cork. Donc, 3 membres seulement. Les membres de l'AIP publient un communiqué dans la presse pour faire part de leur satisfaction de l'existence de l'Institut, mais de leur souhait que les 7 sièges soient pourvus. Il n'en est rien. Le conseil du Irish Film Board se tient et attribue sa première subvention à Neil Jordan pour son scénario Angel, alors que le jeune écrivain ne figure pas au nombre des cinéastes irlandais, et que tous les cinéastes de cette première vague attendent les financements pour leurs films depuis des années. Alors la somme est dérisoire, hein, 100 000 livres, mais elle s'accompagne d'un financement de 400 000 livres par Channel 4. Et donc, le tournage de Angel a lieu en Irlande, et l'histoire trouve aussi son ancrage dans le mal qui gangrène la société irlandaise dans les années 70 et 80, puisqu'il s'agit de ce jeune saxophoniste, Danny, qui se produit avec son groupe dans les bals de campagne, qui fait la rencontre d'une jeune femme, sourde et muette, avec qui il fait l'amour, et à l'extérieur éclate une querelle entre son manager et des inconnus. Le manager est abattu, Annie est abattue, et le développement du récit, c'est cette descente aux enfers du musicien qui, de rêveur, eh bien, se transforme en monstre vengeur et va tuer les meurtriers d'Annie les uns après les autres. Donc...
You can't hear me, can you? You're beautiful. Did you hear that?
Blow the hole if you like, lads, but leave me be.
You're making payments.
I was told to.
Tell this to someone. You've been a bad boy.
Who the fuck is she?
Doesn't matter who she is. John.
Why did you stay? Come on, come on!
Donc, dès cette séquence d'ouverture, Jordan crée un univers irréel proche de celui qui est dépeint dans ses nouvelles, et il dénonce cet englument dans la violence en interrogeant le rôle idéologique du nationalisme, qu'il soit irlandais ou britannique. C'est quelque chose qui va énormément gêner, et je peux vous dire que la réception de son film en Irlande est extrêmement mauvaise. Dans Cinnamon Island, John Hill dénonce un film vide de tout contenu politique. La violence y devient simplement un mal qui sévit dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Alors que, pourtant, le film se réfère aux événements précis du 31 juillet 1975, quand 4 membres du groupe de musique de Miami Showband sont tués par des paramilitaires loyalistes. Neil Jordan était lui aussi musicien à l'époque, toujours avec Peter Sheridan et Jim Sheridan. Ils avaient ce groupe qui s'appelait le Children's Tea Company, et ils avaient fait une tournée en Irlande en 73-74. Et bien sûr, ce triple meurtre était les renvoyait à leur propre expérience et les avait choqués. Et donc, c'est cette histoire qu'il reprend dans Angel. Mais la violence de la réception du film ne vient pas du film lui-même, mais de la place qu'il occupe dans le paysage économique, puisqu'il devient le premier film irlandais subventionné par le Irish Film Board, ce qui, pour les cinéastes de l'Association des producteurs indépendants, plus installés dans le métier, est impossible à accepter, puisqu'il s'agit de domination britannique et de conflit d'intérêts en la personne de John Boorman. L'AIP publie à nouveau un communiqué de presse et c'est une vraie guerre qui fait rage autour de la naissance de ce premier film qui va jusqu'au boycott de l'avant-première. John Boorman tente de se défendre, mais la manipulation du comité qui a été maintenu à 3 membres et le conflit d'intérêts avec les studios Ardmore qu'il préside, eh bien, ce sont 2 évidences qui sont impossibles à contrer. Donc il doit démissionner du Irish Film Board et les studios Ardmore font faillite très peu de temps après. Les membres de l'AIP le précisent, leur action n'était pas dirigée contre Neil Jordan personnellement, mais la controverse est extrêmement violente et Jordan blessé part en Grande-Bretagne pour confirmer son expérience de cinéaste. Et il ne reviendra en Irlande que 7 ans plus tard pour réaliser High Spirits. Donc ce conflit autour de Angel est très révélateur de l'urgence culturelle dans laquelle se trouve cette Irlande postcoloniale, avec une nécessité absolue de parvenir aux moyens d'affirmer sa culture de manière indépendante, et donc avec ce rejet extrêmement violent de toute présence britannique par les plus radicaux. Encore une fois, la situation est amplifiée par les mauvaises conditions économiques et par le manque d'opportunités artistiques pour tous. Le virage amorcé dans les années 70 et au début des années 80 est d'autant plus difficile à négocier qu'il s'accompagne de l'entrée de l'Irlande dans la société de consommation et dans le marché commun européen en 1973. Et donc cette ambivalence entre le désir de préserver son identité culturelle, mais laquelle ? Et celui d'entrer dans la modernité est compliqué par un passé de plusieurs siècles de colonisation et par la nécessité de se constituer à la fois une culture commune à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, avec un pays de seulement 4 millions d'habitants. Donc c'est d'autant plus compliqué qu'on ne peut pas avoir non plus une audience qui est suffisante pour le cinéma. De plus, la période est donc extrêmement tendue politiquement. J'en ai parlé en introduction. Depuis le Bloody Sunday de 1970, où 13 membres d'une marche pour les libertés civiles à Derry ont été tués par l'armée britannique, une série d'attentats a lieu en 1974 à Dublin, à Guildford, à Birmingham, et des membres de l'IRA sont emprisonnés. En 1977 commence la Dirty Protest, donc grève de l'hygiène, où les prisonniers qui sont emprisonnés à partir du 1er mars 1976 ne bénéficient plus du statut de prisonniers politiques et ils sont considérés comme prisonniers de droit commun. Donc en guise de protestation, eh bien, commence cette grève de l'hygiène par Kieran Nugent en 1976. Et puis cette grève va durer 4 ans et se doubler d'une grève de la faim avec Bobby Sands qui, élu membre du Parlement tout en étant en grève de la faim, en 81, meurt le 5 octobre, suivi de 9 autres prisonniers qui meurent aussi à sa suite, avant que cesse le mouvement en octobre. Et il faudra attendre 1985 pour qu'un premier accord anglo-irlandais soit signé. Donc travailler avec les Britanniques dans ce contexte politique peut être perçu évidemment comme une trahison, un retour à la domination par ceux qui croient au film comme moyen d'expression et de libération et donc qui également résistent aux forces du libéralisme. Bob Quinn dénonce les ambitions de cinéastes qui veulent leur nom à l'affiche alors qu'il est plus important, dit-il, de créer, que le format 16 mm donne toute autonomie alors que le 35 mm est coûteux et demande de l'argent étranger. Donc là aussi, il s'agace de ses volontés de grands moyens alors qu'on peut dire les choses, les faire avec moins de moyens et que ce qui est important, c'est de créer. Neil Jordan, lui, poursuit sa carrière en Grande-Bretagne. The Company of Wolves est le fruit de sa rencontre avec Stephen Woolley, producteur, et avec qui il va faire équipe sur de très nombreux films. En 86, il réalise Mona Lisa, film noir dans lequel il explore donc aussi les questions de genre et de race. La réception du film est très très bonne, au point qu'il est qualifié de renouveau du film noir britannique. Dans le Monthly Film Bulletin, le critique Richard Combs écrit que, pardon, le film est la recette parfaite du thriller britannique qui, tout en donnant l'illusion de fonctionner selon une dynamique américaine, n'importe rien. Rien sauf son réalisateur irlandais. Bob Hoskins remporte le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et Jordan est absolument considéré comme cinéaste britannique. Il revient en Irlande en 1988 et c'est en 1992 qu'il s'attaque une nouvelle fois à la question anglo-irlandaise avec un scénario qu'il avait écrit dès 1982. Mais qu'il avait laissé dans un tiroir. Alors, l'excuse qu'il donne, c'est qu'il y a eu donc, la sortie de Cal de Pat O'Connor en 1984, qui, pour lui, était une histoire assez proche, racontant une histoire d'amour entre ennemis. Mais on peut penser aussi que la réception de Angel a fait qu'il a eu besoin de temps avant de refaire un film sur cette question politique assez, assez difficile. Alors, il dénonce à nouveau donc la contamination de la nation par la violence dans The Crying Game, qui raconte la prise d'otage en Irlande du Nord d'un soldat britannique noir qui est incarné par Forest Whitaker par des membres de l'IRA. Et donc lorsque Fergus, membre de l'IRA, est désigné pour exécuter le soldat britannique Jolly, il est incapable de tirer dans le dos de ce soldat avec qui il a partagé une certaine intimité. Et Jolly est ironiquement renversé par un tank britannique. Fergus s'échappe à Londres. Alors, chose intéressante aussi, c'est que vraiment le film est scindé en deux parties, une partie en Irlande, une partie à Londres. Et là où Fergus, donc ayant changé de prénom, tente de se faire oublier des membres de l'IRA, eh bien, va se faire rattraper par, par ces membres de l'IRA qui lui demandent de commettre un attentat. Et le film est une trajectoire de la trahison, mais dans laquelle Jordan utilise la métaphore de l'homo-érotisme pour parler de cette situation politique, chose qu'il va faire dans beaucoup de ses films. Hein. J'ai un court extrait.
I wish to say on behalf of the Irish Republican.
Leave him be!
Take the hood off, Fergus!
No.
I want to see you, please, please. Don't make me die like an animal.
Doing it.
Do you know that, Fergus?
Why?
Because you're my friend. And I want you to go to the metro.
Stop that talk now.
Hell is a fast game, isn't it, Fergus?
The fastest.
Faster than cricket.
Cricket's in a hipney place.
So if I ran, there's no way I could beat you, is there?
You won't run.
What if I did? You wouldn't shoot a brother in the back.
Johnny! You stupid bastard!
What do you say? Bastard!
I said you bastard!
Stop. Don't catch me first! It's to run the mile, you know? All time to run the cricket pitch. What was that game called?
Hurling!
What?
Hurling!
What?
Where goes bastard?
Don't do it. Hold
Donc, nous sommes en 1992. The Crying Game remporte l'Oscar du meilleur scénario original. Et ce n'est pas le premier Oscar remporté pour un film réalisé par un Irlandais, puisque Jim Sheridan, avec qui, donc je vous rappelle, Neil Jordan a collaboré en théâtre, en musique, a lui aussi quitté l'Irlande en 1981, là du manque d'opportunités, pour s'installer à New York, où il dirige le centre d'art irlandais. Mais il revient quand même en Irlande très régulièrement et il écrit le scénario de My Left Foot, une adaptation donc du roman de Christy Brown, et le réalise au studio Ardmore, qui vient d'être repris par une entreprise irlandaise avec, en partenariat avec Hollywood, et qui s'appelle MGM Ardmore Studios. Le film ne traite pas du conflit anglo-irlandais, donc il ne nous intéresse pas aujourd'hui dans ce cadre-là, mais parce qu'à l'instar des films de Neil Jordan, il est presque intégralement financé par des capitaux britanniques. Et le fait que My Left Foot remporte deux Oscars en 90, donc le meilleur acteur, l'Oscar du meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis et meilleure actrice Brenda Fricker, non seulement cela change le sort du film et de son réalisateur, mais c'est la place du cinéma irlandais dans le monde qui est changée, puisque ça donne à ce cinéma un élan international et une reconnaissance internationale. Jim Sheridan poursuit sa carrière avec The Field, 1990, puis il réalise In the Name of the Father en 93, qu'il produit lui-même, parce qu'entre-temps, il a monté sa maison de production, Hell's Kitchen. Donc, In the Name of the Father est produit avec un financement hollywoodien. Et là encore, il traite de la question politique tout en répondant aux impératifs commerciaux du cinéma international, puisqu'il reprend le récit des Quatre de Guildford, injustement accusé d'avoir commis donc l'attentat de 1974. Il reprend ce récit et il le centre sur la relation père-fils entre Giuseppe et Jerry, et la mise en scène repose vraiment essentiellement sur le jeu d'acteur. Donc le pouvoir émotionnel du film permet de faire passer au grand public l'injustice de l'accusation, même si en réalité, ça n'en fait pas un film politique, dans le sens où l'approche narrative ne donne pas accès à la complexité de la situation politique, mais c'est incontestablement le compromis parfait pour toucher à la fois le public irlandais et le public international des années 90. Donc voilà, en conclusion, ce que j'ai tenté de vous montrer à travers ces exemples, c'est qu'il y a vraiment une analogie entre une situation politique qui est extrêmement tendue dans cette période et les conflits internes au petit monde du cinéma anglo-irlando-britannique. Et ce qui se joue dans le fait de produire certains films plutôt que d'autres, dans les conflits de personnes, dans des réceptions subjectives des œuvres, est intrinsèquement lié à la situation historique et politique, et par là même à la conviction de ce que peut ou ce que doit être le cinéma d'une Irlande indépendante. Contrairement à ce qu'affirme Ashcroft, il semble bien que l'espace liminal de négociation de la différence culturelle décrite par Omi Bhabha, donc autre spécialiste de la question postcoloniale, dans le cadre de l'Irlande entre conflit et consensus, eh bien, est présent dans cette période étudiée, bien qu'il s'agisse d'un pays européen qui est indépendant depuis déjà près de 50 ans. La violence de l'histoire irlandaise, symptomatique de la lutte incessante du peuple à se constituer en soulèvements intermittents mais réguliers contre la domination britannique, eh bien, continue de s'exercer dans le cadre de la production cinématographique et dans ces années qui cristallisent le conflit politique dans le Nord, des difficultés économiques internes et des nécessités de création artistique autochtone, malgré des incertitudes culturelles, des divisions idéologiques et un besoin de réhabilitation de la part d'artistes britanniques. Donc, le processus de paix, dont la négociation, je vous l'ai dit, va être amorcée en 1993, ira de pair avec une production cinématographique apaisée. Au début des années 90, les deux cinéastes que j'ai abordés ici, Neil Jordan et Jim Sheridan, bénéficient donc d'une notoriété internationale et naviguent de manière assez aisée entre l'Irlande, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ils ont intégré le système de production anglophone international tout en dénonçant par les sujets qu'ils abordent ce conflit anglo-irlandais. Le troisième cinéma, celui qui est revendiqué par les cinéastes de l'AIP, continue d'exister, même s'il n'a pas réussi à s'imposer auprès du public irlandais et que la télévision irlandaise cessera vite d'être l'industrie cinématographique décrite par Bob Quinn. Je vous remercie.